voudrais vous raconter l'histoire de la limite, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme qui essaye tant bien que mal de faire son métier de père. Il essaye de faire bien, mais ce n'est pas facile. Sa petite fille de 3 ans est une forte tête. Elle veut absolument courir à la frontière du trottoir au bord d'une route où foncent des voitures. Il lui dit non, bien sûr. Il essaye en tout cas, mais elle recommence, tout à son énergie vitale, à son sentiment d'invincibilité, à l'ivresse de sa toute-puissance. Et lui, il se demande pourquoi son non ne marche pas. Il se souvient soudain de ce que disait Kant dans ses réflexions sur l'éducation. On ne doit pas contraindre le corps de l'enfant sans cultiver en même temps sa raison. Autrement dit, d'après Kant, tout ce qui est imposé à l'enfant, au corps de l'enfant donc, doit être justifié par une argumentation. Même si l'enfant est petit et n'est pas en âge de comprendre cette argumentation, elle est néanmoins essentielle, précise Kant, car elle dit que le pouvoir n'est pas arbitraire. Le risque, autrement, serait que l'enfant s'habitue petit à petit à l'arbitraire du pouvoir, ce qui ne risque pas d'en faire un bon citoyen. Mais le père se souvient aussi que Freud dit à peu près le contraire. Ce qui apaise le petit enfant et le délivre de son angoisse infantile est l'existence d'une limite, quelle qu'elle soit. Elle n'a pas besoin d'être argumentée pour produire son effet et devenir un repère. Bref, d'après Freud, c'est non, c'est tout. Ce n'est pas non parce que, c'est non, c'est comme ça. Entre Kant et Freud, le cœur du père balance. De toute façon, il a essayé les deux, enfin essayé timidement, et il a échoué 2 fois. Sa petite fille continue à courir en bordure du trottoir, risquant de se tordre la cheville et de passer sous les roues d'une voiture. Dur métier que d'être parent, se dit-il en courant derrière sa fille pour la rattraper. Mettre une limite, imposer à son enfant de la frustration, il faut bien reconnaître que ce n'est pas sa spécialité. « Tu ne lui fais pas du bien », lui reproche sa femme, et il le prend mal. Sa spécialité à lui, c'est l'amour et pas la frustration, se dit-il, piqué dans son orgueil. Probablement croit-il secrètement que l'amour suffit, que l'amour suffira. Mais l'amour peut-il suffire à élever son enfant? N'est-ce pas encore de l'amour que de savoir offrir à son enfant des limites qui l'apaisent et le préparent à la vraie vie? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir Caroline Goldman, docteur en psychopathologie clinique, psychologue pour enfants et adolescents, auteur de nombreux livres et d'un podcast qui cartonne, Caroline Goldman, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette ô combien difficile question, comment bien aimer nos enfants?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Caroline Goldman.
Bonjour, merci pour votre accueil enthousiaste.
Merci d'être avec nous, vous allez essayer de nous éclairer. Alors je précise un peu qui vous êtes psychologue pour enfants et adolescents, vous avez sorti des livres, notamment celui-là, « File dans ta chambre, offrez des limites éducatives à vos enfants » aux éditions Inter-éditions. Mais moi je vous ai découvert à travers votre podcast qui s'appelle Caroline Goldman, le podcast, une psychopathologie au service de l'enfant. Et j'avoue que j'ai adoré. Et souvent, je me suis dit, moi qui ai 3 enfants de 20, 17 et 14 ans, que j'aurais bien aimé vous connaître avant. Je vous trouve très éclairante, très lucide, et notamment sur cette première question que je voudrais vous poser, sur cette question des limites. Si on reprend la problématique de mon intro, là, vous êtes plutôt Kant, c'est-à-dire qu'il faut quand même expliquer à l'enfant, même petit, ou, je m'en doute, plutôt Freud, c'est comme ça.
Mais je suis les deux. Je pense qu'il est impératif d'éclairer l'enfant sur les raisons pour lesquelles on lui indique des attitudes à avoir ou ne pas avoir, mais il n'est pas question d'en faire une discussion, une conversation où les deux parties seraient à égal niveau d'élaboration et de connaissance, de sagesse et de maturité. Donc on explique, tu ne peux pas courir sur la route parce que tu risques de te faire écraser par une voiture et je n'ai absolument pas du tout envie que tu te fasses bobo, que tu sois accidenté et t'amener à l'hôpital, ou que tu meurs, évidemment encore moins. Et si tu ne viens pas tout de suite, et si tu ne m'obéis pas, je te punirai dans la chambre en rentrant à la maison.
Oui, c'est intéressant cette synthèse. C'est vrai que Kant nous propose d'argumenter. La force de ce que dit Kant, c'est que si on n'argumente pas, alors que beaucoup de gens disent que c'est pas la peine d'argumenter, l'enfant va avoir l'impression que l'autorité est arbitraire et ça pourrait lui nuire dans son développement, notamment en tant que citoyen. Il pourrait se soumettre à différents tyrans plus facilement.
Oui, absolument, mais les deux doivent être réalisés. Le problème, l'écueil dans lequel glissent ceux qui discutent, c'est qu'ils n'arrêtent pas de discuter. C'est l'énorme problème. Oui. Moi, je dis oui à l'information, non à la discussion.
Oui, oui à l'argumentation, presque oui à la justification.
À l'information. Voilà pourquoi je te dis de manger des brocolis, voilà pourquoi je te dis d'aller te coucher à 20h30, voilà pourquoi tes copains ne peuvent pas tous venir tous les jours à la maison. Et puis on s'arrête là, quoi.
Très bien. Voilà. Alors, vous avez une grande expérience de pratique. Vous recevez des patients depuis plus de 20 ans. Et vous avez un propos assez ferme, assez précis. C'est comme ça que je vous ai identifié. Notamment sur certains travers de l'époque. On va les prendre un par un. On va prendre la question de l'éducation positive et bienveillante. On va prendre aussi, après, la question de la confiance et la question qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui de comment on annonce le pire aux enfants. Mais commençons par une incroyable mode qui fait des best-sellers, de l'argent partout. Ce qu'on appelle l'éducation positive et bienveillante. D'abord, je voudrais que vous la définissiez et qu'après, vous nous expliquiez pourquoi c'est dangereux.
Alors, l'éducation positive et bienveillante n'est pas dangereuse en soi. Dans sa définition internationale, anglo-saxonne en l'occurrence, puisqu'elle a émergé plutôt aux États-Unis, sous la plume d'auteurs comme Kasdin ou Barclay, l'éducation positive et bienveillante dit que l'amour est la première proposition relationnelle à offrir aux enfants et que les violences éducatives sont extrêmement néfastes. Bon, ça, la psychanalyse l'avait identifié il y a plus de 100 ans. Les neurosciences sont venues apporter un complément d'information et de démonstration à cet état de fait. Tant mieux, toutes les voix qui peuvent se porter en faveur du respect des enfants, de leur éveil par la tendresse, l'amour et la confiance sont évidemment à accueillir avec reconnaissance. En France, certains gourous, spécialistes autoproclamés, alors il faut quand même noter que la plupart n'ont pas de qualification en psychologie ou en pédopsychiatrie. Hein, il y a beaucoup de parents d'enfants, il y a une pédiatre.
Mais n'hésitez pas à les citer, comme ça on
voilà,
sait pourquoi.
Papa positif, par exemple, c'est un papa, mais il n'a aucune qualification dans ce secteur. Ouais. Catherine Guéguen est pédiatre. Isabelle Filiosa a une maîtrise, donc un master 1 de psycho. Elle n'a
pas été
diplômée. Voilà. Donc aucun ne travaille en pédopsychiatrie, aucun n'est clinicien au chevet des patients. Donc il parle d'une réalité fantasmée, idéologique. Et eux ont transformé ces données qui nous venaient de l'international, du monde anglo-saxon, à propos de cette définition d'éducation positive, en ajoutant des choses, en rognant d'autres. Donc, en l'occurrence, pour moi, le nœud, le vrai problème, le carrefour problématique entre les vraies données sur l'éducation positive et leur traduction en France et véhiculée dans les médias en France, c'est l'interdit d'interdire.
Voilà.
Et ça, c'est une création de toute pièce de la subjectivité de ces personnes qui ont interprété des données de recherche en ajoutant des leurs fantasmes, leur idéologie, leurs idées, parfois complètement farfelues. Hein.
Mais ce sont aussi des incongruités. Des idées que, par exemple, le fait qu'on ne doit rien interdire, le fait que si l'enfant fait une crise, ben, on n'a qu'à lui faire un câlin, le fait qu'on doit jamais, que dès qu'on manifeste un interdit, on émet une violence contre l'enfant.
Absolument.
Toutes ces idées,
oui. Et on
elles
voit
marchent
d'ailleurs
autant
là,
parce que les gens ont envie de les entendre.
Absolument. Claude Almos, que j'aime beaucoup, disait que cette vague surfait sur la culpabilité des parents. Et pour vendre des méthodes et des livres. Et
c'est mais vous, dans votre résumé. Cabinet, vous envoyez les méfaits.
Ah, mais j'envoie les méfaits puissance 1000. C'est-à-dire que depuis 8 ans, à peu près, la pédopsychiatrie est envahie par ces problématiques qui non seulement n'ont pas chassé les précédentes, c'est-à-dire que les enfants sont toujours psychotiques, les enfants sont toujours déprimés, les enfants ont toujours des blessures narcissiques, mais surajoutent des enfants qui sont devenus tyranniques parce que des gourous comme ça, médiatisés, ont menotté l'autorité de leurs parents.
Et donc concrètement, comment ils se manifestent, ces enfants tyrans ?
Ils ont des troubles du comportement, ils font tout ce qu'ils veulent, ils disent tout ce qu'ils pensent.
D'accord. Donc en fait, ce qui leur manque, c'est peut-être ce que vous appelez des limites éducatives. C'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, « File dans ta chambre, offrez des limites éducatives à vos enfants ». Donnez-nous quelques exemples de ces limites qui leur manquent et qui leur feraient du bien.
Ça doit commencer quand ils sont petits et que je pense que le plus saisissant, c'est quand ils commencent à faire autorité sur l'ordre établi dans la famille. Donc évidemment, le monde de l'enfant doit s'acclimater à lui quand il est tout petit, parce qu'il a son rythme et qu'il faut le respecter, il faut le ménager, etc. Il n'est pas question de faire des noubas jusqu'à 4h du matin avec un bébé dans les bras, etc. Mais quand, par exemple, il commence à couper la parole à un an et demi, deux ans, systématiquement, dès que parents se parlent, quand il commence à jeter beaucoup la nourriture par terre du haut de leur chaise haute en faisant des grands sourires un peu provocateurs, quand évidemment ils arrachent les yeux et les cheveux de leurs petits frères et sœurs qui viennent de naître.
Pour qu'on comprenne bien le problème, quand on comprend que c'est inacceptable, mais ce que proposent les gens que vous dénoncez, que vous avez cités tout à l'heure, c'est quoi dans
d'expliquer
ce cas-là
à l'infini. Catherine Guéguen disait sur les plateaux, l'éducation c'est la répétition. J'ai eu 4 enfants, je ne leur ai jamais rien répété parce que je n'ai pas que ça à faire, eux non plus, et que j'ai envie que les mots aient une valeur, aient une portée. Je les vois, ces parents-là, qui ont répété à l'infini. Mais les enfants n'entendent plus rien de ce qu'ils leur disent, leurs parents. Vraiment, ça leur glisse dessus. Et quand le prof leur parle, ça leur glisse tout autant dessus. Donc ça, c'est dramatique pour un enfant. Il faut que la parole de l'adulte soit entendue. Donc répéter à l'infini, alors vraiment, ce qui pour moi relève vraiment du surréalisme le plus complet, c'est le câlin, alors que l'enfant appelle, entre dans un rapport de force où il appelle les limites. Et là, il y a quand même un biais d'interprétation qui est tragique.
Mais qu'est-ce qui propose ce câlin à ce moment-là?
Isabelle Fidioza, Catherine Guéguen, Papa Positif, que ça. Des câlins, non mais n'importe quoi. Enfin, on passe dans une dimension folle, quoi.
Vous montrez aussi dans ce podcast que un des problèmes de ce courant, dont vous montrez qu'il a quelque chose de positif, mais le problème de ce courant de l'éducation positive et bienveillante, c'est une négation de l'agressivité naturelle de l'enfant. Vous pouvez nous expliquer un peu?
Oui, en fait, donc ce sont des idéologues, ce ne sont pas des cliniciens, donc ils ont le loisir de se donner l'illusion à eux-mêmes et aux gens auxquels ils parlent que l'enfant est un être pur, aseptisé, dénué de toute forme d'agressivité, de hargne et de quête de limites. Alors bon, ça, franchement, moi, ce qui me fascine le plus, c'est peut-être que ce soit reçu par les familles qui ont des enfants et qui voient bien que ça n'est pas le cas. Enfin, un enfant dit et fait globalement un peu n'importe quoi au départ. Donc, c'est à nous de damer un peu l'espace dans lequel il peut évoluer et puis court-circuiter ces tentations pulsionnelles qui seraient dommageables pour les autres.
Encore faut-il reconnaître qu'elles existent. Je vous propose d'écouter un extrait de votre podcast pour qu'on comprenne bien votre ton.
La vie quotidienne avec des enfants consiste à se promener au paradis avec eux, avec un extincteur sur l'épaule, prêt à dégainer. Promenez-vous au paradis avec eux. Profitez de chaque moment pour être heureux ensemble, mangez du chocolat, faites-vous des guilis, moquez-vous du monde, dansez comme des zinzins, chantez comme des pioches, mangez des fondues au mois d'août, baignez-vous dans la mer au mois de décembre, câlinez-vous infiniment, bref, amusez-vous, profitez de la vie, du miracle d'être ensemble et de s'aimer autant que possible. Mais quand votre enfant déborde et nuit au confort des autres, sortez l'extincteur en toute décomplexion et posez-lui les limites qu'il appelle.
Alors, on a compris, mais l'extincteur voulait dire le fusil? C'est quoi l'idée? En tout cas, on aime bien la métaphore. Et c'est là qu'on comprend que vous n'êtes pas contre beaucoup d'amour, de joie, etc. Parce que Isabelle Fidioza, elle a aussi écrit des livres sur la joie, qui d'ailleurs ne sont pas inintéressants. Mais en fait, ce que vous voulez dire, c'est que peut-être le vrai amour nous demande de savoir faire ça aussi.
Non, mais c'est pire que ça. C'est que la réalité, c'est que quand un enfant appelle les limites, il les appelle jusqu'à ce qu'il le reçoive. Et cet appel peut prendre absolument tout l'espace de ses relations intrafamiliales. Donc, l'amour n'est permis que par l'établissement des limites éducatives. Toute autre assertion serait mensonge. Ça n'est pas possible autrement.
Donc on comprend que votre position, vous venez de la psychanalyse, de la psychopathologie psychanalytique. Quand je vous entends, je comprends, moi ça me parle, mais j'ai l'impression que Freud l'avait déjà dit. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à cette question de la limite, du rôle du père, que ce que Freud avait déjà dit dans une magnifique intuition?
Mais alors, en toute sincérité, je ne crois pas que Freud l'ait dit, en réalité. Je ne sais pas où il l'a dit. Moi, ce que j'ai lu de Freud, c'était plutôt le contraire, que les enfants étaient brimés, qu'ils étaient cassés par l'éducation très religieuse de son époque, et qu'il fallait beaucoup plus offrir plus de liberté aux enfants.
Oui, je parlais quand même de la question du rôle du père, de mettre une distance par rapport à l'immédiateté de l'amour de la mère, d'être un tiers, d'imposer de la norme, d'imposer de la limite. En fait, je pense que Freud a dit les deux. Il a dit ça, qu'il y avait trop de répression dans une époque très conservatrice, mais qu'il y avait aussi besoin, au regard de la nature pulsionnelle de l'enfant et de l'agressivité naturelle, Freud est vraiment un des penseurs de cette agressivité naturelle, que justement, c'est un peu ce que vous disiez, que l'enfant avait besoin qu'on dise non et qu'on bride cette agressivité parce qu'elle existe justement.
Alors, c'est pas très clair. Freud n'était pas du tout psy pour enfants. Il n'a jamais croisé un enfant dans sa clinique. Donc, il a élaboré une théorisation de l'appareil psychique à la lueur de ses analyses d'adultes. Donc, il a présumé, il allait fouiller, exhumer dans l'histoire de ses patients adultes des faits psychiques infantiles qu'il a théorisés. Mais il n'avait pas, à ma connaissance, de discours aussi clair sur des principes éducatifs. Hein. Je n'ai pas connaissance de ça. Winnicott a beaucoup parlé de la place du père. C'est vraiment l'auteur qui a parlé de ça. Lui, il était un clinicien particulièrement au chevet des patients. Et Françoise Dolto a parlé à son tour de castration symboligène qui... Vous me faites penser à un chef d'orchestre. Vous gigotez beaucoup. Vos auditeurs ne s'en rendent pas compte.
Mais c'est parce que je suis en train de lancer la musique et parce que c'est l'heure. Et d'ailleurs, vous allez voir, elle est faite pour vous.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, il n'y a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seule issue, la rue, même quand elle est en sang, c'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés. Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aillent bien. Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact. Son équipe compacte, soudée, écoute de scanner pour garder le contact. Ou des idées de bouger, éviter les zones rouges. Surtout, jamais prendre de congés. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. J'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées. Enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'y ai vu. C'est qu'un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Je veux entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les temps assez longs pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui trancha les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse, mais laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Tu veux pas qu'il glisse. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? Que t'as pas vraiment ça pue dehors. Mais comment ça sent la mort? Quand tu respires ça mec t'es comme mort-né. Tu finis borné à force de tourner. Ton cerveau te fait des faux, tu fais des bons. Et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres tu joues de mieux en mieux ton rôle. Ton rôle de Kaira juste pour le pas. Qu'on te dise voilà tu fais plus partie de la mifa d'en bas. C'est dingue mais c'est comme ça. Sache qu'ici va plus qu'ailleurs. La survie est un combat. Base de combat, de coups, de tombat, d'esquive, de super. De putain de stromba. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Non laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
C'était évidemment NTM, laisse pas traîner ton fils.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours, et c'est un vrai plaisir, avec Caroline Goldman, docteur en psychopathologie clinique, psychologue pour enfants et adolescents, auteur de plein de livres, et notamment de ce podcast par lequel je vous ai découvert. Alors évidemment, Laisse pas traîner ton fils, ça me rappelle l'épisode de votre podcast sur la place du père. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu la substance de ce que vous appelez la place du père ?
Alors, quand je parle de place du père, je parle de place du second parent. Je pense qu'un premier parent, donc généralement la mère, seule, face à cette montagne que constitue l'éducation d'un enfant, est sinon ambitieuse, assez impossible. Je crois que je veux condamner personne, mais c'est le fond de ma pensée. Hein. On est ici pour se dire la vérité. Je ne vois pas trop comment un parent seul peut se débrouiller pour à la fois prodiguer la tendresse et l'amour et à la fois enseigner les limites éducatives, notamment, puisque c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure, même si la place du tiers, donc du second parent, du père, concerne bien d'autres chapitres. Ouais. Mais il est très difficile, ne serait-ce que pour cette question des limites, d'être celui qui prodigue, celle qui prodigue la tendresse, l'amour, les soins, dans une très grande promiscuité des corps, hein, et des âmes, au début de la vie de l'enfant, et tout à coup avoir assez de recul pour intimider l'enfant et lui faire entendre l'ordre établi. Donc il faut à un moment donné qu'un tiers intervienne. Ce tiers peut avoir n'importe quelle forme pour de vrai, c'est-à-dire oui. que ça peut être un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, un voisin, une voisine, un beau-père évidemment,
ou une belle-mère. Ou même une femme dans un couple homosexuel.
Absolument, une belle-mère, voilà. N'importe qui, même une amie.
On va l'appeler le père pour simplifier, mais
voilà,
on a compris. Ouais.
Absolument. En réalité, il s'agit du second parent. Évidemment, le père a une place privilégiée parce qu'il aime l'enfant, il aime la mère, et bon, tout ça facilite ouais. le schéma. Mais on a absolument besoin, pour construire un enfant, qu'intervienne à un moment donné un second parent qu'il aime suffisamment pour appuyer les intuitions éducatives de la mère et de la société en général.
D'accord, donc mettre de la distance, rappeler de la limite, et ça nous conduit, et vous l'évoquez dans cet épisode de votre podcast, à l'idée que parfois le père, ce qu'on a appelé le père, peut être aussi présent dans la parole de la mère. Ton père n'apprécierait pas que... Et ça me rappelle un peu ce concept qui m'a souvent agacé du père symbolique. Alors, on comprend le concept, mais moi j'avoue que, en tant que père... J'ai adoré être dans l'immédiateté, j'ai adoré être dans ce rôle que vous appelez la mère, j'ai adoré les soins. Et d'ailleurs, à ce sujet, je recommande à nos auditeurs un très bon livre d'Alexandre Lacroix qui raconte sa paternité avec ses 5 enfants. Ça s'appelle « La naissance d'un père ». Il a ce point commun avec moi d'aimer être là, en fait. Et moi, ça m'a toujours exaspéré quand on m'a dit « Oui, mais t'es là quand t'es pas là, en fait. Si on parle de toi, t'es là. Moi, j'ai envie d'être là, vraiment. »
Bah évidemment, il vaut mieux être vivant que mort, il vaut mieux être présent qu'absent, c'est certain. Hein, parce qu'en plus, un enfant, c'est très concret, je trouve. Ça m'a saisi, ça, quand j'ai mis au monde mes enfants. Je me suis dit, c'était vraiment très concret, un enfant. Bon, après, Romain Gary, Albert Camus, Sartre n'ont pas eu de père, mais ces pères existaient de façon très puissante. Leur portrait d'héros de guerre était sur la cheminée, pour les deux derniers. Et on a bien vu quand même les vertus structurantes de cette représentation. Donc tout existe, et ce qui est certain, c'est que ce tiers paternel existe à 50%, et je pèse ma statistique, qui est tout à fait empirique, qui n'a rien de scientifique, mais je l'éprouve très fort.
Vous avez quand même 20
fort.
Ans de pratique.
Voilà, c'est plus ça. Je vois l'impact absolument monumental que les mots de la mère ont sur la représentation que l'enfant a de son père et donc de ses vertus structurantes ou non. Parce que, évidemment,
vous voulez dire que la mère peut aider ce qu'on appelle le père à avoir cette autorité parce qu'elle en parle d'une certaine manière.
Voilà, et puis je parle d'autorité, mais je parle de tout, de tout ce que transporte cette figure, hein, pas forcément en termes d'autorité, oui. sur plein d'aspects identificatoires par ailleurs. Oui, elle a un immense pouvoir. Alors, c'est vrai que le schéma familial que je décris est assez tradit, là, un peu caricatural, avec une mère qui serait plus au chevet de l'enfant et un père qui serait un tout petit peu plus éloigné du quotidien. Ça change, je m'en réjouis vraiment, ça change très nettement. Hein. Dans mes consultes, je vois bien, parce que j'accueille toujours des familles, je vois vraiment que les mœurs évoluent, que maintenant les femmes peuvent rentrer plus tard du boulot, qu'elles peuvent gagner plus que leur mari, etc. Mais dans les faits, quand même, d'abord les congés maternité, c'est toujours les mères qui les prennent, hein, jusqu'à ce que la loi change, ce sera le cas a priori. Et quand même, cette répartition des rôles est encore un peu induite, quoi, là, par le réel, quoi.
Bien sûr. Alors, il y a quelque chose d'autre de votre podcast qui m'a vraiment troublé, et je vais vous faire deviner ce que c'est en écoutant ça.
Ah Forza Italia, pensa a vedere la roetta! Ma vanca di soldi!
Caroline Goldman, est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai passé cet extrait du fou rire dans Le Grand Bleu ?
Oui, le rire dans l'éducation.
Alors ça, c'est ce que j'ai préféré. Expliquez-nous un peu cette thèse. Vous expliquez la vertu du rire dans l'éducation, mais même les vertus.
Je trouve d'abord que c'est un sujet qui n'est jamais abordé et je le regrette très vivement. Daniel Marcelli, qui est un grand professeur de pédopsychiatrie, chef de service à Poitiers, a écrit un livre qui s'appelle « La surprise chatouille de l'âme ». Il est, à ma connaissance, le seul à avoir écrit sur ce sujet en psycho. Et d'ailleurs, il en fait état dans son introduction. Hein. C'est très, très dommage. Parce que, finalement, nous, psys, sommes des artisans du bonheur. Hein. C'est la façon dont, personnellement, je définis mon travail. On court derrière l'épanouissement des enfants. C'est ce pourquoi on se lève le matin, ce pourquoi on reçoit des patients. Et le rire, c'est la manifestation la plus nette, la plus directe du bonheur. Donc pourquoi se priver de cet indice et de sa suggestion comme moyen thérapeutique ? Alors il ne s'agit pas de rire de façon plaquée sans l'éprouver. Mais globalement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et moi, ce que je dis à mes patients, évidemment en particulier lorsqu'il y a une tonalité dépressive en eux, c'est de ne pas lésiner sur cette option, ce levier. Donc par exemple, quand ils étaient petits, moi, mes enfants, je leur faisais des guilis tout le temps. Et je trouvais ça magique parce que cette option se débarrassait de tout scénario relationnel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'être marrante, il n'y avait pas besoin d'aller chercher des idées pour les faire sourire. Je pouvais les faire sourire en me jetant sur eux, entre guillemets, tendrement et en leur faisant des chatouilles sous les bras, quoi.
Quel que soit d'ailleurs le contexte, quels que soient les drames, quelle que soit l'actualité.
Bon, évidemment, il ne faut pas être dissonant non plus. Hein. On ne peut pas leur dire « papy est mort » et se jeter sur eux en leur faisant des guilis. Hein. Ne les rendons pas plus fous.
D'ailleurs, il y a un autre épisode à ce sujet que je trouvais passionnant, c'est comment annoncer le pire aux enfants. J'avoue que j'ai été un peu surpris par votre méthode. Est-ce que vous pouvez la résumer ?
Ma méthode, comment la résumer ? D'abord, là, j'emprunte à Winnicott sa notion extraordinaire d'object presenting, de présentation de l'objet, c'est-à-dire que lui expliquait, et vraiment à raison, que la forme était presque plus importante que le fond. Elle l'est même, en réalité. Plus ils sont petits, plus la forme a d'importance. Parce que les enfants sont vierges de toute coloration émotionnelle des événements. Ils ne savent pas si, quand on leur dit « ce soir, on mange des pizzas, il faut être joyeux ou triste », si on leur a jamais donné de fessée et que tout à coup, il y en a une qui part, ils nous regardent étonnés en ne sachant pas comment réagir, s'ils tombent par terre, vous savez, quand ils sont petits, ils tombent au parc, ils lèvent les yeux vers nous avec un air...
Est-ce que je dois pleurer ?
Voilà, c'est ça. Dans quelle direction je dois aller ? Alors là, les parents, soit ils se ruent sur le mur, « Oh, mon pauvre chéri, mais quelle horreur ! Tu dois avoir tellement mal !» Et on pleure avec eux. Donc là, évidemment, ils vont pleurer parce qu'ils vont voir notre inquiétude. Ou alors, on lui dit « Bah dis donc, tu as fait une sacrée cavalcade, une sacrée pirouette. Mmh. » On se marre, on lui propose d'aller faire autre chose. Et puis là,
ce sera anodin. Cette idée, d'ailleurs, c'est très riche philosophiquement. Cette idée qu'au fond, la forme est plus importante que le fond. Alors, pour qu'on comprenne votre méthode quand même, vous prenez un cas, si vous vous en souvenez, c'est le père d'une amie de l'enfant qui s'est suicidé.
Oui.
Comment vous lui annoncez à votre enfant ?
Alors, ça m'est arrivé d'annoncer le suicide d'un ami à mes enfants. Donc, je leur ai dit, mes petits choux, j'ai une information, une nouvelle incroyable à vous raconter. Alors, évidemment, je me marre pas quand même trop, parce qu'il ne faut pas être dissonant. Hein. Mais, alors, venez, d'abord, on va faire une liste de tout ce qui est vraiment génial dans la vie. Qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir dans la vie ? Alors, on a listé tout ce qui faisait plaisir, faire un câlin, regarder des DVD, manger des bons becs, bon, etc. Et à la fin, à partir en vacances, faire du trampoline, enfin, vraiment, c'était une très longue liste. Hein. Et à la fin, donc, je leur ai dit, bon, alors voilà l'information, j'ai un truc incroyable à vous dire. Appelons-le Paul, est mort cette nuit. Le papa de Margot. Il est mort cette nuit. C'est incroyable, cette histoire. Mais attention, je fais un peu le show, quoi. Mmh. J'ai encore un truc encore plus fou à vous raconter. Vous êtes prêts ? Parce que ça, c'est vraiment fou. Hein. Et vous savez comment il est mort ? Eh bien, il est mort en se tuant lui-même. Non, mais vous imaginez cette histoire ? Il s'est tué lui-même. Ça veut dire qu'il voulait plus vivre et il s'est suicidé. Ça s'appelle se suicider. Alors bon, ils nous regardent avec des grands yeux, mais en fait, ils sont pris par un peu le théâtralisme de l'affaire, quoi.
Le récit.
Voilà. Et donc là, je dis, ça, et je sors la liste et je dis, donc ça veut dire que il a renoncé à tout ça, à ce qui rend tellement heureux dans la vie. Il s'est pas dit, mais quand même, je vais plus manger de glace au chocolat, quoi. Non, mais quand même, j'irai plus dans la mer me baigner avec les dauphins, quoi. Eh ben non, tout ça, il a dit non, c'est trop dur ce que j'ai dans mon cœur, c'est tellement triste que je préfère mourir et renoncer à la vie. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il a renoncé à la vie? Bah, parce qu'il était très triste. Et je vais vous raconter pourquoi il était très triste. Parce que quand il était petit, trois petits points. Voilà. Et là, les enfants, on leur offre un espèce de package qui pose le ton, qui leur évite de s'effondrer, et qui leur donne de l'espoir, qui les met à l'écart aussi d'une identification à ce destin, parce que c'est ce qui nous fait le plus trembler quand on annonce ces nouvelles. On a peur que l'enfant s'identifie au destin les plus tristes qu'on convoque, en fait. Donc, je trouve que c'est vertueux à tous les étages. Et puis, en même temps, on parle d'affect, on parle de tristesse, on dit la vérité, quoi.
On dit les choses, on dit la vérité, oui, c'est très important. Oui. Et on comprend d'ailleurs, dans la manière dont vous avez raconté ça, que même si vous pointez les écueils avec une exaspération légitime d'une éducation positive bienveillante, que vous êtes, bien sûr, pour la joie, et vous montrez d'abord en quoi la vie est belle, en quoi c'est donc surprenant de vouloir quitter cette vie. Et ça me touche beaucoup parce que, figurez-vous que moi, j'ai le même problème que vous en tant que philosophe par rapport à la psychologie positive et à la pensée positive. C'est clair qu'il y a du positif. C'est bien de voir les choses positivement, mais il y a des abus terribles. Et en philosophie, c'est comme si on ratait la joie de vivre à force de vouloir tout le temps positiver. En fait, c'est triste de vouloir tout le temps positiver. C'est bête de vouloir tout le temps positiver. Parce que dans la vie, il y a des choses sombres. Donc du coup, c'est déprimant de se forcer à voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il est évidemment les deux. Et dans votre exemple, dans la manière dont vous annoncez le pire, on a senti cette méthode. C'est pour ça que je me sens assez proche de vous. C'est-à-dire que peut-être la vraie joie, elle est davantage dans la lucidité que dans l'auto-persuasion et le bourrage de crâne. Et on vit une époque, et vous le montrez sous le jour de dans votre champ, la psychologie, nous on le voit dans le champ de la philosophie, on le voit partout, où en fait, l'époque est tellement sombre, elle est tellement dure, que comme par hasard, fleurissent les marchands de bonheur et les marchands de soupe, de psychologie positive et autres. Alors qu'en fait, peut-être, la vraie joie, c'est de regarder les choses en face et de dire les choses comme elles sont. Oh,
C'était Arlo Parks, Softly.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Caroline Goldman, qui est psychologue pour enfants et adolescents, docteur en psychopathologie clinique. Nous parlons de comment on fait pour bien aimer ses enfants, quelle est la place du père, comment on met de la limite. Je recommande vraiment votre excellent podcast qui s'appelle Caroline Goldman, le podcast, qu'on trouve sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, il m'est arrivé un truc bizarre en écoutant tous les épisodes, c'est que j'ai revisité les 20 ans depuis lesquels je suis père, en me disant, ouais, là j'ai merdé, là aussi, mais quand même, il y a des fois où je pense que ça s'est pas mal passé. Et notamment, il y a un moment où vous m'avez beaucoup troublé. Je me suis dit, mais si je vous avais écouté plus tôt, si j'avais su que vous existiez, c'est par rapport au divorce. Vous dites, mais il y a absolument... On n'arrive même pas à l'imaginer. Quand on est en train de divorcer, on se dit, mais ça va être dur pour mes enfants. Et vous dites un truc très beau, très simple, qui est que les enfants, ils sont, ça ne leur pose aucun problème que leurs parents soient séparés si leurs parents vont bien. Et donc, dans la façon de l'annoncer, eh bien, ça porte à conséquence.
Oui, c'est vraiment pas anodin, parce qu'évidemment, comme vous le savez, les couples divorcent de façon générale. Hein, statistiquement, je crois qu'en Île-de-France, on est deux couples sur trois, deux couples parentaux sur trois. Donc, évidemment, il faut savoir l'exprimer. Donc, quand on se présente aux enfants, avec toujours ce fameux object presenting à l'esprit, hein, cette histoire d'importance de la forme quand on véhicule des messages.
Rappelez
de coloration.
Le concept de Winnicott, rappelez-le.
Oui, c'est le fait que la coloration émotionnelle avec laquelle on annonce les choses aura plus d'impact que la chose en question, que l'information en soi. Donc, à partir du moment où on se présente aux enfants en disant, bon, les enfants, mes chéris, on a quelque chose à vous annoncer. Ben voilà, vous vous souvenez, quand on s'est rencontré papa et maman, on était fous amoureux, on se faisait plein de bisous, on s'aimait tellement qu'on a voulu avoir des petits bébés qui nous ressemblent et qu'on élèverait ensemble. Vous êtes nés, ça a été les plus beaux jours de nos vies. Et puis, petit à petit, vous vous en êtes rendu compte. Donc, on a eu de très belles années avec vous. Et puis, petit à petit, on s'est moins bien entendus. On était fâchés souvent. Vous nous avez sans doute entendus ou pas, d'ailleurs. Et puis on s'est rendu compte qu'on était plus heureux quand on vivait pas ensemble, quand on n'était pas ensemble. Et nous, on a très envie d'être heureux. Donc on a décidé qu'on ne vivrait plus ensemble, qu'on allait se séparer. Mais c'est pour continuer à être heureux. Voilà. Et pour que vous continuiez à nous voir heureux l'un sans l'autre. Et puis on espère qu'on retombera amoureux, qu'on refera nos vies. Voilà, et moi je balancerai absolument tout ça d'un coup pour que les enfants, à aucun moment, ne tremblent et ne se sentent chutés dans une chute qui est une vue de l'esprit. Enfin, c'est un point de vue, mais au milieu de plein d'autres. Et je trouve aussi qu'on devrait tout de suite assumer l'aspiration à refaire nos vies, à retrouver l'amour, à retrouver le bonheur, parce que c'est une bonne visée identificatoire pour les enfants que de nous entendre tenir ces propos et qu'on leur démontre en faisant ça que lorsqu'on va mal, il faut s'arracher à l'homéostasie, à l'équilibre dans lequel on est. C'est un vrai bon modèle, un bon phare existentiel pour les enfants.
Oui, j'insiste sur ce point. Ce que vous dites, c'est le message que ça leur envoie, c'est tu sais, quand ça va pas, t'as le pouvoir de te barrer.
Et oui. Et alors pourquoi ? Vraiment, moi je veux bien insister sur le fait que je suis une clinicienne. Moi, je ne suis absolument jamais une idéologue. C'est-à-dire que j'ai un côté très pragmatique, mauvais élève. Je ne me laisse pas embarquer par les idées. Je pars de ce que je constate cliniquement de la souffrance de mes patients. Voilà, c'est vraiment ça mon axe d'appréhension. Ce que je vois, c'est que les enfants les plus malheureux sont des enfants qui ont des parents ensemble qui se détestent. Ça, c'est le poison d'une vie infantile. Voilà. Des parents séparés qui sont super heureux, super épanouis, qui alternent dans la garde de l'enfant et qui s'éclatent dans leur vie amoureuse, qui s'éclatent dans leur vie professionnelle, etc. Ça fait des enfants heureux. Qu'on m'amène des contre-exemples cliniques, je n'en verrai aucun. Il n'y en a pas.
C'est clair, Caroline Goldman.
C'est vraiment ça que je me sens être depuis mon enfance. Un être humain en forme de fille qui a toujours eu les yeux ronds devant tout ce qu'elle voyait, surprise, questionnée partout. Et je continue d'être tout le temps questionnée partout, et en particulier par les enfants, leur comportement qui est toujours langagier et qu'il faut décoder pour comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Et en même temps, par leurs vraies questions, quand en parole ils nous en posent, qui sont toujours surprenantes et à laquelle on a trop vite fait quand on répond « Mais t'es bête, voyons, c'est comme ça. » Mais non, la vie, ça... Les adultes, nous prenons les choses comme si ça allait de soi, mais c'est que ça ne va pas de soi du tout. Et nous répondons très mal aux enfants.
Vous confirmez ces propos de Françoise Dolto?
Pour moi, Dolto, bon, j'adore Dolto, évidemment, on ne peut que l'aimer. Elle a vraiment démocratisé l'idée que l'enfant était une personne, qu'il fallait le ménager. Mais elle s'est inscrite vraiment, enfin, elle a éclos sur plan médiatique dans les années 50-60. C'est-à-dire, elle était encore vraiment quasi contemporaine de Freud. C'est-à-dire, elle est arrivée juste après lui, à une époque encore conservatrice, vieille école, où effectivement on frustrait. Là, j'ai envie de dire qu'on a tellement entendu Dolto qu'on a basculé dans l'écueil inverse, où encore une fois, ça revient à ce qu'on se disait au début de cette émission, les parents discutent tout avec les enfants et il n'y a plus d'hierarchie, il n'y a plus de verticalité dans les relations parents-enfants. Tout est horizontalisé avec toute l'insécurité et le désapprentissage des codes sociaux que ça peut générer chez les enfants.
Oui, bien sûr. On comprend ce que vous dites sur la discussion, mais là, elle parlait aussi de l'étonnement. Est-ce que les enfants que vous voyez vous étonnent toujours autant ?
Moi, je suis complètement mordue. Mon métier me transcende. Je ne sais pas s'il y a un état après la passion. Ça, il faudrait demander à la philosophie. Vraiment, tout à fait. Il me passionne. Les questions qui se posent m'intéressent, même si maintenant j'ai une idée quand même du bois qui les constitue et des idées qui les traversent. Je dirais plutôt que moi, mon ciment, il est du côté de l'affectivité. Ma maladie à moi, c'est moins la curiosité que l'empathie. C'est-à-dire que je ne peux pas supporter qu'un enfant soit en tension, soit malheureux, au point d'être difficile à supporter dans la vraie vie. Parce que je vois un enfant triste dans un train, dans un avion, ou dans un métro, ou chez moi en vacances, je ne pense absolument qu'à ça, et je ne pourrai recommencer à respirer et à vivre tranquillement que quand je serai assurée que son environnement va tout faire pour que ça s'arrange.
Il y a un autre concept que vous développez beaucoup, qui est le concept de sublimation. Mmh. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez au sens freudien, je vais d'abord mettre ma casquette de prof quelques secondes, pardonnez-moi, parce que justement, chez Freud, la sublimation a un rapport avec l'agressivité, et l'agressivité, c'est justement ce dont vous expliquez qu'elle est trop absente de la vision de l'éducation positive bienveillante. Ce que dit Freud, c'est que cette agressivité, elle est là. Mais heureusement, quand nous devenons civilisés, quand nous apprenons la vie sociale, nous refoulons une grande partie de cette agressivité. Mais le refoulement ne fait pas disparaître l'agressivité. Elle est juste là, mais refoulée, ça veut dire qu'on ne s'autorise plus à être conscient qu'on est agressif et qu'on est pulsionnel. Eh bien, heureusement, il y a la sublimation, dit Freud, notamment dans ce petit livre génial, Le malaise de la civilisation. La sublimation est présentée comme la solution, provisoire et partielle, mais solution quand même, à ce malaise. Autrement dit, sublimer, c'est exprimer son agressivité, mais de manière non agressive, à travers de belles activités intellectuelles, sociales ou ludiques. Qu'est-ce que vous en faites dans votre pratique de psychologue ?
La sublimation, c'est le nec plus ultra. C'est vraiment c'est l'étoile vers laquelle on se dirige. C'est l'idéal. Il disait d'ailleurs de la sublimation que c'était la négociation la plus riche, la plus, enfin, je me rappelle plus exactement de ces termes, mais la plus aboutie, la plus exceptionnelle à propos de Léonard de Vinci, enfin, oui, auquel le psychisme humain puisse aboutir. Beaucoup de jeunes adultes que je reçois ou d'ados, enfin, parce que comme ça fait 17 ans que je suis dans mon cabinet, évidemment, il y a des enfants qui sont devenus des jeunes adultes et que j'ai envie de continuer à recevoir parce que nos liens sont forts.
Bon, parfois, vous avez
Moi, je vois toujours l'enfant en eux, quoi. Mais c'est parce qu'ils ont été mes anciens.
Ouais, c'est drôle.
Moi, ils restent pas longtemps, en général. Vous savez, ouais, moi, je suis pas du genre à chroniciser le lien thérapeutique. J'aime bien être efficace rapidement et puis, ouais, et puis qu'ils partent investir des gens dans leur vraie vie et dans la nature. Quand le travail est bien fait, c'est comme avec les parents, vous savez, c'est pour se défaire. Donc, voilà, donc je leur apprends notamment à ne pas être trop franc, surtout quand ils ont un passif comme ça d'horizontalité des liens, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à dire tout ce qu'ils pensent et à faire tout ce qu'ils veulent. Donc moi, je leur apprends la diplomatie. Ça, c'est le second temps du soin. Une fois qu'ils sont bien limités sur le plan de l'agir, quoi, ils arrêtent d'avoir des troubles du comportement, je leur apprends comment évoluer à leurs âges, qui sont évidemment de plus en plus exigeants sur le plan de la diplomatique, relationnelle, des codes sociaux, comment faire passer les messages sans être brut et grossier. C'est-à-dire que quand on n'aime pas son patron, il n'est évidemment pas question de lui dire, au fait, Roger, t'es un con. Enfin, je veux dire, personne ne lui pardonnera ça.
Je crois que ça peut faire du bien.
Non. ça fait beaucoup de mal. Honnêtement, non, ça fait du mal, parce que Roger a le pouvoir. Donc, finalement, à part... et puis, voilà, les futurs employeurs appelleront Roger. Enfin, c'est une spirale, quand même, qu'on ne peut pas conseiller. Par contre, le jeune peut l'écrire dans son cahier, énormément. Il peut l'enregistrer en audio. Moi, j'ai sur mon bureau d'ordinateur, j'ai un dossier insulte. Vous voyez, des lettres horribles où j'écris aux gens tout ce que je pense d'eux. Mais évidemment, je ne les envoie jamais. Bon, c'est ce qu'on appelle sublimer. Voilà. Et puis après, on arrive devant eux, on est beaucoup plus tranquille parce que la hargne est diffusée ailleurs, quoi. Et puis on peut y revenir et jubiler des mots terribles qu'on a envoyés. L'idéal, c'est quand même l'humour, dans la veine de la sublimation. Il disait, que c'était orienter l'agressivité et la libido sexuelle. Il y a deux types de pulsions de vie, vers les hautes sphères de l'intelligence, de l'humour et de la culture et de la création. Donc l'humour, c'est extraordinaire aussi parce que on peut tout dire, mais sur un ton sarcastique, en se moquant de nous-mêmes, etc. Ça, c'est magique.
Vous avez bien raison de préciser. Il y a deux grands types de pulsions, d'après Freud, et vous semblez les confirmer avec un siècle.
Pulsions de vie.
Voilà, et des pulsions...
Parce qu'après, il y a la pulsion de mort aussi. Mais il y a deux types de pulsions de vie.
Oui, des pulsions, on va dire, de l'ordre de l'agressivité, et de l'autre, de l'ordre de la sexualité. Oui. Et c'est vrai que c'est la sublimation, c'est de donner une expression indirect, non naturel, finalement, civilisé, qu'on pourrait dire, à ces pulsions. On peut imaginer aussi à travers des lectures ou de la création, du dessin, des choses comme ça. On en vient à la question de la confiance, qui est un autre épisode de votre podcast. Comment donner confiance à un enfant ?
En l'aimant, en disant du bien de son autre parent, voilà, parce qu'il y a des fils invisibles narcissiques entre l'image que l'enfant a de ses parents et l'image qu'il aura de lui-même, puisqu'il est le fruit de ce parent et de l'amour qui a lié ces deux parents, et puis en l'encourageant, voilà, et en ne se ruant pas sur ses mauvaises notes, en lui signifiant que elles traduisent une quelconque valeur. Plus général.
Pas d'essentialisation, c'est ça. Cette note ne dit pas ta vérité.
Ah non, mais surtout pas. Enfin, je ne sais pas quel élève vous avez été, mais là, moi, je commence à envisager que ceux qui réussissent le mieux leur vie étaient des mauvais élèves. Bon, ils sont sans doute filtrés par la population que je rencontre, mais quand même, il n'y a vraiment, vraiment pas de corrélation à faire. Ce serait dramatique.
Vous expliquez notamment que ce n'est pas la peine de s'opposer frontalement à ce qu'a dit le professeur, qu'on peut passer par un biais détourné.
Alors là, ça rejoint à la sublimation. Oui, il faut transformer la pulsion agressive pour qu'elle soit digeste et encore une fois, pas dommageable pour soi. Parce que quand on est l'agresseur, évidemment, on est exclu et c'est pas confortable.
Dans ce que vous voyez de vos patients, qu'est-ce qui est le plus dommageable en termes d'estime de soi de l'enfant ?
L'abandon. Ça, c'est vraiment un assassinat narcissique. Quand le père part, sans explication, quand le père ne reconnaît pas l'enfant... quand les parents laissent l'enfant à des grands-parents tout en s'occupant du reste de la fratrie, ça, évidemment, c'est généralement pas dit, pas nommé, pas symbolisé. Donc la violence narcissique est terrible parce que les petits-enfants ont malheureusement l'intuition, ils sont de très fins enquêteurs et ils déduisent que si il y a eu abandon, c'est parce qu'ils manquaient de valeur eux-mêmes. Ce qui est évidemment absolument toujours faux. Et le psy aide à remettre tout ça droit, en lui rendant justice et en lui expliquant que si ses parents n'ont pas pu s'occuper de lui, c'est parce que ses parents étaient eux-mêmes en souffrance ou que ce père a été lui-même abandonné par son père, ce qui est à peu près toujours la même histoire.
De répétition,
oui. Mais oui, parce qu'on n'abandonne pas un enfant. À partir du moment où on a été aimé, soigné et objet de l'attention parentale, on ne peut pas envisager ça, c'est impossible, c'est un déchirement viscéral, quoi. Donc quand on le fait, c'est que quelqu'un d'autre a osé le faire avant nous. Et évidemment, il n'est pas question non plus d'en vouloir au grand-père abandonné qui lui-même a eu une histoire, qu'il a justifiée. Mais il faut absolument symboliser tout ça pour pas que l'enfant cohabite avec une extrême douleur narcissique et la conviction que c'était à cause de son manque de valeur personnelle.
On comprend bien, en tout cas, en vous écoutant, que votre approche est celle d'une psychopathologie, mais psychanalytique, que même avec des enfants petits, vous êtes dans la psychanalyse, c'est-à-dire dans la parole, dans le fait de symboliser, de faire émerger des conflits internes, de libérer, au fond, par l'intériorité. Et on comprend, bien sûr, pourquoi vous pouvez être tant agacé par des gens qui ne sont ni médecins, ni scientifiques, ni même psychanalystes, et
qui vont s'inventer comme ça, professeurs de bonheur et de psychologie positive. Merci beaucoup, Caroline Goldman, de nous avoir accompagnés ce matin dans Sous le soleil de Platon. Pour vous remercier, je vais essayer de dégager pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin. Je dirais d'abord du bon sens, un vrai bon sens thérapeutique. Ce bon sens aujourd'hui est menacé par les choses qu'on a évoquées. Hein. Et puis aussi, une philosophie inspirée de celle de Winnicott, où finalement la forme est aussi importante, voire plus importante que le fond, en tout cas pour l'enfant, qui est très sensible à cette manière comme ça de présenter les choses, moins à ce qui est dit qu'à la manière dont c'est dit avec le cœur, avec le sourire. On a aussi retenu une philosophie du rire, ce rire libérateur, presque ce rire thérapeutique. Et puis, ce n'est pas tout, la sublimation. La sublimation, ça veut dire que tout se transforme. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir. Ça veut dire que quand on va mal, on peut aller mieux. Ça veut dire que quand bien même on serait des animaux agressifs, on serait capable de sublimer cette agressivité pour devenir des êtres civilisés. Et c'est cela votre métier, d'accompagner les enfants, les adolescents, vers plus de civilisation, et vous l'avez dit bien sûr, vers plus de bonheur. Caroline Goldman, bien sûr, je renvoie encore une fois à votre très bon podcast qui porte pour titre Caroline Goldman, le podcast. Cette émission a été préparée par Vera Louderie et Fabrice Rivaud, réalisée par Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, à la technique Anne-Laure Cochet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin dans la caverne de Platon, à 9h exactement, sous le soleil de Platon. Bonjour Eva Rock, vous arrivez tout de suite dans l'été comme jamais. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui ?
Bonjour Charles, nous allons parler d'art, comment entrer dans un tableau. Oui, je sais, c'est un peu étrange comme idée. À tout de suite.